Bonjour Diego Arbal.
Bonjour mon cher Philippe.
Je commence avec vous cette semaine, parce que je dis toujours Philippe Nolli, mais là j'avais envie de changer. Beaucoup Diego.
Vous faites très bien, voilà. Ça me fait plaisir d'être le premier inter pares entre les pairs.
Entre les pairs.
Bonjour Philippe Nolli.
Bonjour Philippe Subarcas, bonjour Diego Arbal.
Bonjour Philippe.
Voilà, on se retrouve chaque semaine effectivement pour un jour, un livre, un auteur. Alors vous remarquez, j'ai commencé par vous, mais c'est pas innocent, puisque je sais que c'est vous qui allez œuvrer cette semaine. Et qui dit Diego Arbal dit sûrement trailer policier.
Exact.
C'est exactement. Rappelez-nous quand même la proportion des livres qui sont achetés, qu'on appelle la littérature noire.
La littérature noire représente largement 40% de la littérature disponible.
Disponible. Donc 40% des actes d'achat d'un livre,
c'est du policier, du thriller.
D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de meurtre alors.
Alors aujourd'hui, on va parler de meurtre, mais on va surtout interviewer Cécile Douel, qui a commis son premier roman policier, qui s'appelle Sombre Pacte, qui est paru aux éditions Kern dans la collection Du Noir au Sud. Bonjour Cécile.
Bonjour Diego, bonjour Philippe.
Bonjour, effectivement, bonjour.
Voilà, alors dans cette émission, généralement, il y a un petit billet d'humeur de ma part pour présenter le roman, donc votre roman qui s'appelle Sombre Pacte. Quoi de plus anodin qu'un accrochage en banlieue toulousaine ? Sauf quand du coffre de la voiture de devant surgit une main inerte. Cette découverte va amener le major Gilles Meyer, l'adjudant Audrey Leroy et Sylvain Dufresne à plonger dans le quotidien tourmenté de quatre adolescents. Quotidien tourmenté 20 ans plus tôt de quatre adolescents. Placés dans une famille d'accueil par la DAS, ils vont subir la violence d'un patriarche abusif. Quel drame a pu ainsi souder Hugo, Cédric, Fabien et Louis ? Et quel rôle joue dans cette affaire le collègue des trois gendarmes, David Millet ? Dans une écriture précise, au scalpel pourrions-nous dire, Cécile Douel pose les pièces d'un puzzle. Sans compromis, elle fouille ses personnages dans toutes leurs fragilités et angoisses. Profondément humains, ils tentent les uns et les autres de composer avec les aléas d'une existence qu'ils ne maîtrisent pas, pour le meilleur ou pour le pire. Un roman noir aux personnages incandescents malgré leur noirceur, une histoire pour se faire peur, comme une lecture d'un conte de Perrault. Sombre Pacte de Cécile Douel, édition Kern, collection du Noir au Sud. Voilà Cécile, ça c'était la réaction que j'ai eue en lisant votre roman. Première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire un roman policier, d'abord, et deuxièmement, d'écrire cette histoire-là, qui est quand même une histoire particulièrement sombre, avec des personnages pas mal cabossés les uns et les autres.
Alors, l'envie d'écrire, cela remonte à très longtemps. J'ai toujours été passionnée de littérature noire depuis gamine. Je suis rentrée dans la littérature noire toute petite, et déjà avec la Bibliothèque Verte et ses trois détectives, avec le Club des Cinq, tout ça, tout ça. Et puis très vite, je me suis intéressée aux grands auteurs de la littérature noire, donc évidemment La Reine du Crime, Agatha Christie, mais pas que, aussi l'ensemble des Sherlock Holmes. Et puis ensuite, en rentrant dans d'autres moins grands, moins emblématiques, mais tout aussi intéressants, et dans tout un tas de styles différents. Et donc, quand je suis arrivée à la fac, mes 20 ans, j'avais très très envie d'écrire, et j'avais commencé à écrire, à prendre quelques cours d'atelier d'écriture. Puis j'ai mis ça entre parenthèses, puisqu'on m'avait dit, on ne peut pas être littéraire et scientifique, et à l'époque j'étais chimiste, je faisais des études de chimie. Je me suis dit, effectivement, je ne peux pas, et donc je m'étais arrêtée. Et puis à l'occasion d'un bouleversement dans ma vie il y a quelques années, je me suis dit que finalement, il y avait peut-être des rêves, mais il y avait aussi des buts à atteindre. Et je me suis remise, je suis repartie en atelier d'écriture, et l'animatrice un jour m'a dit, mais Tu as tout ce qu'il faut pour écrire une trame longue, un roman. C'est intéressant, tu as des idées, il faut y aller. Et là, je me suis dit, ben, banco, j'y vais. Je me suis installée, j'avais du temps. Donc, du coup, je me suis installée devant l'ordi et j'ai déroulé mon histoire petit à petit. Donc, voilà comment l'envie d'écrire est arrivée. C'est, en fait, elle est arrivée il y a très longtemps et elle a germé. Et il a fallu tout ce temps-là pour finalement sortir de terre et se concrétiser. Cette histoire en particulier m'a été inspirée par une histoire que j'ai vécue, une histoire véridique. Je suis enseignante et j'étais dans un lycée, c'était un peu compliqué, il y a une population un peu défavorisée, difficile, qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, mais c'est le cœur de mon métier, donc moi j'adore ça. Et je suis tombée sur le cas d'un gamin que j'avais dans une de mes classes qui était classé en foyer. Et bon, suite à une série de malentendus administratifs, quelque part, un jour, nous avons eu une réunion et la façon dont le cas a été traité en réunion m'a quelque peu choquée. Et je me suis dit, et si jamais c'était tombé sur la mauvaise personne? Si, en fait, ce gamin avait mal réagi, en tout cas plus mal réagi que ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il aurait pu advenir? Quelle aurait été la suite de tout ça? Et à partir de là, j'ai écrit, comme vous le disiez si bien, j'ai écrit mes premières pièces de puzzle. Et à partir de ces pièces de puzzle, une fois que j'en ai écrit quelques-unes, il a fallu les relier, il a fallu combler les vides, remplir le dessin, en fait. Donc là, je me suis amusée à détourer mon puzzle, puis remplir, voilà, tous les blancs jusqu'à poser la pièce finale. Et ce jour-là, j'ai pu écrire le mot fun de mon récit et c'est ce qui a donné Sombre Pâques.
D'accord. Et il y a quand même une description qui est précise à la fois du travail de ce groupe de recherche de la Gendarmerie nationale, donc qui vit pas dans une caserne, mais chacun vit un peu isolé, ce qui est un petit peu pas le cas de la totalité des gendarmes. Donc ils vivent quasiment chacun de leur côté. Ils sont dans des bureaux qui sont pas dans une caserne. Sur quelle connaissance vous êtes-vous appuyé pour décrire ces personnes-là? Est-ce que vous avez rencontré des gendarmes? Est-ce que vous avez dans votre entourage des gendarmes qui ont pu vous expliquer un peu comment ils fonctionnaient? Parce que votre description est précise sur le travail des gendarmes et des policiers en même temps.
Alors, j'ai eu l'occasion, effectivement, de rencontrer des gendarmes. Pas énormément, parce que j'ai toujours un peu de scrupule à aller déranger les gens dans l'exercice de leur fonction et pour leur poser des questions, parce qu'eux-mêmes sont quand même pas mal occupés. Mais j'ai pu en rencontrer quelques-uns, donc leur demander un peu comment fonctionnait, quelle était l'organisation déjà de la gendarmerie entre les brigades, les regroupements de brigades, etc., et les différents niveaux. Et toutes les attributions afférentes à chacun des niveaux. Donc ça, c'était mon premier travail. Ensuite, pour le travail de groupe, donc effectivement, tout ce qui est section de recherche et brigade de recherche, c'est un peu particulier, puisqu'ils ont des compétences territoriales un peu plus étendues et pour des sujets un peu plus précis que la simple brigade du coin. Hein.
Oui. Oui, parce qu'il y a une obligation dans ces cas-là, que ce soit des officiers de police judiciaire, où ils sont moins nombreux dans les brigades traditionnelles, les brigades territoriales, qu'ils ne le sont dans ces brigades spécialisées sur la criminalité.
Exactement. Donc du coup, voilà, je me suis renseignée, voilà, sur cette organisation, sur comment cela se passait. Alors j'ai rencontré quelques gendarmes, je suis allée aussi chercher l'info tout simplement sur le site de la gendarmerie qui propose des magazines et où ils font des dossiers sur ce genre de, voilà, sur les brigades très spécialisées. Je suis allée sur des forums qui s'adressent à des gendarmes et qui sont tenus par des gendarmes pour les nouveaux ou des élèves, en fait, gendarmes qui posent des questions à leur père. pour savoir un peu où est-ce qu'ils vont et comment ça se passe ailleurs. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches comme ça, et puis ensuite, étant donné que je n'écrivais pas un cours pour apprendre le fonctionnement d'une gendarmerie, je me suis effectivement autorisé quelques libertés en me disant, mais effectivement, peut-être que comme ce sont une brigade de recherche est amenée à bouger au gré des enquêtes sur sa zone territoriale, je me suis dit, ben, est-ce qu'il faut absolument qu'ils vivent dans la caserne de rattachement? Est-ce qu'on ne peut pas les faire vivre à côté? Et du coup, pour leur travail, pareil, est-ce qu'on ne peut pas leur affecter un bureau dans la caserne de leur affectation, mais aussi travailler ben, sur les lieux en fait où se passe l'enquête, en fait, et donc aller dans l'abri de proximité la plus proche. Donc voilà, je me suis probablement accordé quelques libertés, mais a posteriori, d'autres gendarmes ont lu mon livre et sont venus me dire, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui nous a choqués.
D'accord, ouais.
J'ai dit que c'était peut-être des libertés qui finalement existaient réellement. Mais voilà, ça c'est après, voilà, il y a ma liberté d'autrice, de création qui fait que j'ai imaginé que effectivement tout n'était peut-être pas figé dans le marbre. Et voilà, que mes protagonistes pouvaient se déplacer, pouvaient avoir des lieux différents de vie. Pour qu'ils aient chacun aussi leur histoire, puisque, comme vous le disiez, voilà, j'ai des protagonistes qui ont une histoire forte, et du coup, je voulais pouvoir les inscrire dans un lieu qui leur corresponde aussi.
Oui. Alors, effectivement, donc vous avez en fait une héroïne, même si c'est un travail d'équipe, hein, il y a une héroïne, Audrey, qui est celle sur laquelle focalise le narrateur, hein, qui raconte un peu bah, ce qu'elle pense, etc. C'est sur elle que notre regard de lecteur est plutôt attiré. Mais il y a aussi ses collègues de travail. Il y a Sylvain, qui est quelqu'un d'hyper brillant. Il y a le patron du groupe de recherche qui essaye de garder l'intégrité de son groupe. On démarre l'histoire sur un passif, puisque ce groupe de recherche a vécu visiblement un gros problème de procédure qui a mal fini. Avant l'histoire, hein, et qui fait qu'ils sont dans le collimateur de la hiérarchie au-dessus du chef de groupe ou même du major, du major qui commande l'ensemble. Donc on est déjà dans quelque chose où c'est pas des personnages vierges, quoi. Ils arrivent avec un passif. Et c'est le cas de le dire, puisque ça a l'air relativement lourd. Et en plus, du point de vue personnel, Audrey, elle est tributaire de sa mère qui est malade, qui a Alzheimer, qui est visiblement en fin de vie, mais qui persiste à survivre. Elle vit seule, etc. Un des protagonistes, un des antagonistes, hein, donc un des entre guillemets mauvais garçons, si on peut dire, a lui-même une mère perdue, une mère qui ne sait plus où elle est, qui n'est plus consciente de ce qu'elle fait, etc. Tout ça, ça crée quand même une atmosphère lourde, mais une atmosphère extrêmement réaliste sur la difficulté de concilier son travail et puis une vie de famille, et puis surtout quelque chose qui devient aujourd'hui assez fort, qui est cette présence de nos anciens et de comment est-ce qu'on peut les accompagner, les conserver auprès de nous. Dans des situations qui sont particulièrement délicates, c'est-à-dire il faut continuer à travailler, il faut vivre sa vie, etc., etc.
Effectivement, j'ai vraiment souhaité, alors ne pas arriver voilà, avec des personnages vierges, tout beau, tout neuf, sortis du blister. À partir d'un certain âge, n'importe qui a un passif. Même si on ne veut pas en parler, on a tous quelque chose, on a tous ou des casseroles, ou... Voilà, quelque chose qui nous pèse, qui nous tient, on a quelque chose. Voilà, on a quelque chose dans le sac à dos et qu'il faut continuer à trimballer avec nous. Donc, je voulais que mes personnages soient aussi comme ça. Je voulais que chacun ait sa petite histoire, alors pas forcément très lourde ou très noire, mais voilà, je voulais pas d'avoir de personnage complètement insouciant, façon jeune fille en fleurs, là, qui parcourt les prairies. Je voulais vraiment montrer ça. Et je voulais montrer effectivement que, voilà, malgré le fait d'avoir quelque part une arrière-cour un peu chargée, il faut quand même maintenir une façade, il faut pouvoir continuer à vivre, à travailler, parce que la société attend ça de nous aussi. Et c'est toute cette difficulté à conjuguer, à pouvoir trouver ces moments-là pour, mais voilà, par exemple, Audrey qui essaie de trouver des moments, de garder ses moments de contact avec sa maman. Mon antagoniste qui maintient sa maman à domicile parce qu'il ne veut pas la mettre en institution, il préfère lui s'en occuper, la garder auprès de lui, mais effectivement avec toutes les difficultés, donc obligé de se mettre en télétravail, de monter sa propre entreprise pour pouvoir continuer et l'avoir avec lui. Voilà, toutes ces petites situations, je voulais en parler parce qu'en fait, c'est le quotidien de quasiment tout le monde. On a
Oui,
tous ce moment-là où il faut conjuguer. Il faut conjuguer aussi ça avec nos propres angoisses, avec nos propres peurs, avec nos propres envies aussi. Et ça fait une équation un peu compliquée parfois à résoudre.
tout à fait.
Voilà.
Je rappelle que nous sommes sur Radio Présence, nous sommes dans l'émission Un jour, un livre et un auteur, et que nous recevons Cécile Doel pour Sombre Pacte. Alors, puisqu'on parle du premier antagoniste, Hugo, il faudrait peut-être parler des deux autres antagonistes que vous introduisez, et qui sont quand même des personnages intéressants. Je veux parler de Fabien, de Cédric. Et puis, il y en a un qui est un peu une sorte de fantôme. Louis, alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots avant que nous achevions cette interview?
Et du coup, donc Cédric m'a été inspiré ben, finalement par tout un tas de jeunes hommes que j'ai pu croiser quand j'étais adolescente, en fait, où toujours c'est cet âge où on se situe un peu à la marge et où c'est très borderline finalement, il suffit de pas grand-chose pour basculer. Et parfois, il arrive à un moment donné, ben, le coup près de la justice qui tombe et qui fait que, bon, ben, voilà, il faut se ressaisir, voilà, les circonstances font qu'on reste amer de tous les manques, de tout ce qui n'a pas pu se passer comme on voulait. Voilà, donc, et puis, Fabien, voilà, pareil, c'est ces gamins alors que je croise régulièrement dans le circuit de l'éducation nationale, ou qui sont pris en charge par des structures, mais des structures qui sont souvent submergées par le nombre de dossiers. Et où donc c'est compliqué. C'est un accompagnement, oui, mais en plus de l'accompagnement institutionnel, médical, il faut toujours le petit plus qui va peut-être faire changer les choses. Donc voilà, j'ai voulu. Je me suis inspirée de tous ces cas-là que j'ai pu rencontrer.
En fait, c'est des personnages qui sont eux-mêmes victimes je dirais, d'un laisser-faire ou d'un abandon de la part à la fois de parents qui ne sont pas à la hauteur, mais aussi des institutions qui sont censées les accueillir, les soutenir et leur permettre de reprendre un chemin qui soit celui d'une vie normale, quoi.
Ça, je voulais vraiment souligner, c'est un manque, voilà, une carence, alors, quel que soit le niveau, que ce soit parental, que ce soit institutionnel, que ce soit. Voilà, il y a à un moment donné, je voulais souligner qu'il ne suffit de pas grand-chose pour tomber du mauvais côté, pour que la situation ne puisse pas s'arranger à un moment donné. Vraiment, parfois, ça tient à rien du tout pour qu'on bascule complètement dans une situation presque désespéré finalement, puisque après plus le temps passe et plus cela devient compliqué de récupérer certaines situations. Mais après, je voudrais quand même souligner que voilà, il faut toujours garder espoir, effectivement, puisque il faut surtout pas abandonner, surtout pas. Et voilà, tous ces personnages, à un moment donné, je voulais montrer que effectivement, à pas grand chose, ça s'est joué à pas grand chose pour que cela puisse être autrement. Mais voilà, il y a des carences, il y a des manques. Alors, après, est-ce que cela aurait pu être autrement? Quelles auraient été les solutions que l'on aurait pu mettre en place pour changer les choses? Je n'ai pas la solution, mais voilà, je voulais vraiment montrer que voilà, il y a des destins à dîner comme ça, et cela aurait pu être évité probablement.
Oui. Il y a des destins abîmés et où on a du mal à imaginer comment on pourrait éviter que ces destins ne s'abîment, parce que rien n'est écrit et que c'est bien des circonstances. Je veux dire, peut-être que Cédric ou Fabien, dans un cadre de placement auprès d'une famille aimante, l'aurait intégré dans sa logique familiale, quoi, et non pas considéré comme étant un personnage de plus dont le seul intérêt c'est le peu que ça peut rapporter d'être une famille d'accueil. Peut-être que dans une famille aimante, ce seraient des personnes tout à fait différentes une fois devenues adultes, malgré le handicap qu'a Fabien, par exemple, ou la difficulté de vivre et je dirais l'inconfort qu'il y a chez Cédric, par exemple.
Exactement, voilà, c'est ce que je voulais décrire, c'est que vraiment, voilà, ce sont des espèces de deus ex machina, c'est-à-dire que ça ne vient pas forcément de l'individu lui-même, c'est vraiment de tout son entourage, de toutes les, voilà, du système parfois, qui n'a pas les moyens, qui n'a plus les moyens, qui s'essouffle, c'est ce qui fait que, voilà, un destin peut basculer. Et c'est fort dommage, c'est fort dommage.
Tout à fait. Eh bien, merci Cécile Douel d'être restée avec nous un moment pour nous parler de Sombre Pacte, votre premier roman paru aux éditions Cairn dans la collection Polar du Noir au Sud. Juste une dernière question avant de vous quitter. Vous avez quelque chose sur le feu?
Oui, je reprends mes enquêteurs qui repartent se battre la campagne, toujours du côté du nord-est de Toulouse, et effectivement, donc quelques-uns vont évoluer, je vais m'appesantir un peu sur la situation de certains, de certaines, et découvrir d'autres particularités du nord-est, des villages du nord-est de Toulouse.
D'accord. Et on va avoir le plaisir de voir se pérenniser les deux APJ, c'est-à-dire auxiliaires de police judiciaire qui ont été intégrés dans l'équipe à la fin du roman, puisqu'ils ont donné un coup de main. On va peut-être les voir évoluer aussi et s'intégrer bien dans cette équipe et peut-être évoluer professionnellement vers des OPJ.
Exactement, le reste. Mais voilà, donc après je développerai ce personnage effectivement dans le deuxième roman.
Eh bien écoutez Cécile, grand merci d'être venue jusqu'à nous pour parler de votre roman. Et puis on attend avec impatience le prochain pour vous recevoir, d'abord pour le lire et puis ensuite pour vous recevoir pour en parler. Au revoir Cécile et merci beaucoup. Donc je rappelle que c'est Sombre Pacte aux éditions Cairn de Cécile Douel et que c'est dans la collection Polar du Noir au Sud.
Vous avez tout dit, mon cher Diego Arabal, comme d'habitude, c'est parfait. Merci beaucoup, puis merci aussi à votre invité. Et puis peut-être donc, vu qu'il y a quelque chose sur le feu, on la retrouvera d'ici quelques semaines ou quelques mois.
Quelques mois, le temps que ça paraisse, je pense. Voilà. Enfin, qu'elle termine de l'écrire et que ça paraisse.
Voilà, exactement. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, chers amis.